tu écoutes Ne Venez Plus, le podcast de la déconstruction.
Alors, on se retrouve pour la seconde partie de notre deuxième épisode intitulé « Les Noirs n'existent pas ». Alors, vous pouvez réécouter la première partie pour savoir un peu qu'est-ce qui a été dit. Donc, on enchaîne pour la suite. Alors, si je comprends bien, dans une certaine mesure, ce n'est pas vraiment un choix, mais c'est quelque chose qui s'est imposé à vous. Tu arrives dans cette société-là, il y a une case, il y a une grosse case qui est là. On a dit ça, c'est la case des Noirs. Tous les Noirs, tous ceux qui correspondent à un certain profil ont entré dedans. Voilà. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est lorsque toi-même, en tant que personne, tu acceptes d'entrer dans cette case-là, de définir sur cette base-là, comment est-ce que tu fais pour vivre pleinement en tant que personne humaine? Parce que la personne humaine et la personne noire, c'est pas vraiment la même chose. Je sais pas si on essaie de se comprendre. L'humain a toute une palette d'émotions, de capacités qui vont au-delà de sa simple race, au-delà de la simple case dans laquelle on met les Noirs et où on dit les Noirs, ils font ça, 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 ça. Donc, lorsqu'on se définit en tant que Noir, est-ce qu'on ne se limite pas soi-même dans notre épanouissement, dans notre évolution et tout machin? Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous avez vu ça là-bas? Comment est-ce que vous avez expérimenté ça un peu?
Moi, comment je me suis sentie noire en France, c'est dans le regard des gens, en fait. Je sais pas, j'avais un miroir chez moi, je savais que j'étais noire, mais je ne savais pas ce que ça impliquait d'être noire, tu vois. Parce que quand j'arrive ici, tu te rends compte que, man, il y a les discriminations de fou. Tu as les discriminations au logement, tu as les discriminations à l'emploi, tu as des gens qui se lèvent dans le métro, qui ne veulent pas s'asseoir à côté de toi. Après, tu te poses la question, mais quand tu regardes la personne, mais tu te dis que toi, là, moi-même de ton pays, il mange que toi, et puis toi, tu es maître. C'est par rapport à quoi, en fait? Genre, tu te rends compte, tu te rends compte de certaines réalités. Après, il y a des gens qui restent dans le déni, hein, ils veulent s'assimiler. Et puis, il y en a qui font le travail de comprendre la chose. Et puis, après, quand tu comprends la chose, tu te dis, mais genre, je suis fière de ce que je suis. Je revendique aujourd'hui ma négritude parce que je sais d'où je viens. Je sais le parcours qu'on a traversé et tout. En France, leur politique, c'est d'être un État-nation. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas les communautés, mais ils les traitent comme tels. Youssoufa, en France, genre, ce qu'ils se sont dit, puisque c'était plusieurs petits villages, plusieurs petits pays, là, les Normands, les Bretons et tout, ils se sont dit pour que le truc marche, on va tous être français, il n'y aura plus de patois. Donc, quand il y a des immigrés qui arrivent, on leur demande de faire pareil, en fait, de s'assimiler. C'est-à-dire que si tu es arabe, il faut que tu arrêtes de parler arabe, il faut que tu arrêtes de mettre ta djellaba. Si tu es malien, arrête ton boubou, le mafé, c'est fini, il faut que tu commences le tartare. En fait, genre, on te demande de te confondre à la norme qui est eux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand tu ne veux pas te confondre à cette norme-là, ils ont un problème avec toi parce que tu veux ta personnalité, tu veux garder ta culture. Mais ce truc-là, généralement, ils l'imposent aux gens qui sont non-blancs. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à un immigré anglais, arrête de parler anglais, un immigré espagnol, tacitement, arrête de parler espagnol, tout ça. Ils ne vont rien lui dire, genre, limite, tu n'es pas dérangeant parce que physiquement, en apparence, on ne te sent pas différent de la norme, tu vois. Et genre, c'est petit à petit. Mais moi, je pense que se définir comme noir, ça n'entrave rien à notre humanité. Je suis noir et je suis humain. C'est parce qu'on refuse de rentrer dans le jeu des races qu'on est perdant depuis. Tout le monde est dans le jeu des races. Ils font tout semblant. Ils sont les plus grands communautaires. Ils fonctionnent en communauté. Partout où ils vont, ils sont en communauté. Il n'y a pas plus solidaire que la communauté arabe, la communauté juive. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais nous, on nous a toujours mis en tête, surtout les Noirs francophones, que fonctionner avec les autres noirs, c'est pas bien, genre, ça veut dire que tu discrimines les autres. Non, c'est parce que je m'aime et que je me préfère ou que je préfère les gens de ma famille que je déteste les frères de gloire ou d'Ibrahim et de Hansa. Mais s'il y a un souci, je gère moi mes frères d'abord. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. On est noir et humain. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux bien te définir comme ivoirien, mais le jour où il y aura un souci là, s'il y a un tchadien ou il y a un afro-américain, il y a un entier, on va tous vous mettre dans le même sac parce que vous êtes noir. Donc, à un moment, tu prends pour charger. Tu es noir.
En fait, je disais que tu as totalement raison. En fait, lorsque tu parles du fait que les blancs, en fait, veulent que quand les gens viennent chez eux, ils font pareil que ce qui se passe chez eux. Parce que eux-mêmes, en fait, quand ils vont dans les pays des gens, c'est les premiers à vouloir refaire exactement ce qu'ils faisaient chez eux, quoi. Genre, enfin, quand ils viennent en Afrique, même dans d'autres pays du monde, c'est toujours eux qui veulent, genre, qu'on mette leur culture en avant, mais le contraire, ils vont après pour ça, quoi. Et en fait, tout ça, c'est toujours dans la même idée qu'il y a de la hiérarchie qu'ils ont fait. Il y a la culture, en fait, occidentale, la culture blanche, si on peut dire ça comme ça, qui est supérieure aux autres. Donc, les autres doivent, en fait, doivent se fondre dans la masse, pendant qu'eux, ils peuvent toujours garder la tête hors de l'eau, quoi.
Oui, c'est grave ça. Je trouve que l'histoire telle qu'on nous la raconte, c'est un couteau à double tranchant qui fait des victimes d'un complexe de supériorité et d'autres d'un complexe d'infériorité. C'est incroyable comment c'est palpable quand tu vis au milieu d'eux, de les entendre parler dans leur chauvinitude, là, de se dire que oui, enfin... C'est quasiment incroyable, quoi. C'est des gens qui se prennent pour le centre du monde, mais ils ne font pas exprès. C'est comme ça qu'on les a conditionnés.
Pour répondre à la question de gloire, je dirais que c'est pas une mauvaise chose de se définir en tant que noir. Je ne pense pas que ça nous restreint. Et comme Mani l'a dit, c'est une manière pour nous de se réapproprier notre négritude et de l'utiliser à notre avantage. Parce qu'au final, en regard des autres communautés, elles sont vraiment solidaires. Mais en regard en Afrique, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas partagé les mêmes expériences. Du coup, il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est vraiment difficile en noir, pour les Noirs, surtout francophones, d'avoir cette identité, de se rallier vers le fait d'être noir et autres. Mais je dirais que le fait de me définir en tant que noire, c'est plus à mon avantage parce qu'au final, je fais partie d'un plus grand groupe qui partage une expérience similaire, qui partage des succès assez similaires et des échecs assez similaires. Du coup, ça me permet d'apprendre des expériences des autres pour mieux me forger. En Amérique, par exemple, quand tu regardes, et je vais vous dire que c'est vraiment délicat le concept de noir, de race ici, parce qu'il fut un moment où les noirs africains qui venaient ici, ils ne voulaient pas s'associer aux noirs américains. Parce qu'il y avait tellement ce stéréotype que les blancs ont vraiment créé contre les Noirs américains, qui faisait que les Noirs d'Afrique qui venaient, les Noirs des Caraïbes qui venaient, ne voulaient pas être associés aux Noirs américains parce qu'on disait que, les Noirs américains, ils étaient violents, ils étaient paresseux, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. Bref, tout ce qui était mauvais, c'était les Noirs. Et jusqu'à présent, c'est la même histoire qui se passe. Donc, ça fait que il y a cette disparité-là qui existe dans la communauté noire, ici aux États-Unis. C'est vraiment ces dernières années-là, je dirais 5 à 10 dernières années, que les choses ont commencé à changer. On voit un peu plus de rapprochement des deux communautés. Et surtout, les enfants des immigrants africains ou des immigrants caribéens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui n'ont connu que l'Amérique, c'est vrai qu'ils ont la culture africaine, la culture caribéenne, mais ils ont aussi cette culture américaine. Du coup, ça a forcé les Noirs africains à vraiment se rapprocher des Noirs américains. Donc, au final, on est tous Noirs, peu importe si on veut se définir noir ou pas, mais dans l'œil des blancs, nous va comme noir. Donc c'est vraiment à notre avantage d'être plus solidaires, de se rallier en tant que communauté et de se battre pour nos droits, pour notre reconnaissance, vraiment.
Il y a une petite question qui est venue dans mon esprit. Bon, je ne sais pas cette question, c'est qu'est-ce bon, quelque chose qui est venu. Il y a un moment où je me posais cette question et tout, c'est quoi noir, machin. Et il y a des Indiens qui sont pigmentés, plus pigmentés que les Africains, tu vois. Ils sont noirs, noirs. Mais ces gens-là se définissent comme personne, comme brown, comme marron. Ils disent que eux, ils sont marrons, ils sont pas noirs, tu vois. Parce que je sais pas, c'est rare de voir un Indien se définir comme noir parce que dans leur façon de voir noir, c'est africain, noir, c'est afro-américain. Eux, ils sont pas noirs et c'est péjoratif pour eux. Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà entendu parler de ça et tout?
En fait, par rapport à ta question, même c'est ça un peu l'origine un peu de ce débat, c'est que c'est même pas que j'en ai entendu parler ou pas. C'est juste que même moi, pour moi, par exemple, les aborigènes qui ont la peau noire et qui vivent en Australie, pour moi, c'est pas des noirs. Tu vois? Pour moi, c'est pas des noirs. Je les considère pas comme des noirs. Pour moi, les personnes qui ont la peau noire et qui sont en Inde, les personnes qui ont la peau noire d'Asie et autres, je ne les vois pas comme des noirs. Lorsque j'entends noir, la première chose à laquelle je pense, c'est Amérique. Amérique, descendant d'esclaves et tout, machin. Donc, pour moi, à mon niveau, c'est tout ça là qui définit le noir, parce qu'il y a, il y a, il y a un peu cette notion sociologique qui rentre en compte, qui est celle où on a défini les noirs comme étant, voilà, ceux qui doivent être réduits en esclavage et autres, machin. Et ce qui fait que moi, le noir, voilà, il reste enfermé dans cette boîte-là. C'est pas juste une question de mélanine et autres.
C'est assez intéressant que tu ramènes ce sujet parce que j'ai remarqué ça aussi, le fait que des Indiens à peau vraiment noire se définissent en tant qu'Indiens, en tant que marrons, brown people. Et ça revient à la définition de la race même. Quand on dit noir, la majorité c'est d'origine africaine, noire. Parce que même quand on regarde en Afrique, les Marocains, les Tunisiens et autres qui ont des peaux, qui peuvent avoir aussi des peaux assez foncées comme nous, mais ils ne vont pas se définir en tant que noirs, ils vont se définir en tant que arabes ou bien, je sais pas, maghrébins ou quoi. Donc pour un Indien à peau très noire, de se définir en tant que marron, pas noir, je comprends parce que l'histoire derrière le nom de race noire, c'est plus associé avec les Africains subsahariens. Donc, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Au final, comme on l'a dit, la race telle qu'elle est maintenant, c'est une construction de la société. Donc, c'est en fonction des peuples et tout. Donc, c'est moins par rapport à la couleur de peau, c'est plus par rapport à cette appartenance géographique ou ethnique qu'on... Voilà. Donc, c'est ça. Mais je ne pense pas que le fait de se définir en tant que noir, ça nous réduit, ça nous restreint. Non, au contraire. Il faut qu'on se rende compte que être noir, c'est pas, il n'y a pas une seule façon d'être noir. Et quand on regarde l'Afrique même en particulier, on est tellement différents. C'est vrai, on a vraiment beaucoup de similarités, mais la diversité d'Afrique, elle est plus grande que la diversité sur tout autre continent. Donc, il faut qu'on arrive à reconnaître toutes ces différences qui existent entre nous pour qu'on comprenne que être noir, c'est beaucoup plus que ce qu'on nous montre à la télé ou ce que les médias nous disent.
Oui. Après, je me dis aussi, est-ce que c'est pas un problème lié à la langue? C'est-à-dire que généralement, dans les langues gréco-latines, là, noir, c'est très péjoratif. Même dans la langue arabe, je pense qu'il n'y a pas de terme pour dire noir. Pour désigner une personne noire, c'est genre esclave. Il n'y a pas noir qui renvoie à la couleur de ta peau. Peut-être que ça part de ça aussi, parce que personne n'a envie de se définir comme quelque chose de péjoratif. En France, les gens ont un problème pour dire noir. Ils vont te, on parle tous en français, mais ils vont te dire black. Parce que pour eux, noir, c'est genre, il est en train de t'insulter, il est en train de te dire quelque chose de mauvais, alors que c'est juste un problème de langue. Peut-être que c'est sous cet angle-là qu'il faut aborder ça aussi.
La question que tu as soulevée est super intéressante. J'y avais pas pensé, mais au fur et à mesure que vous parliez, j'ai un peu réfléchi à un truc. En gros, en fait, pour rester dans le thème dans lequel on est, le racisme. En fait, le racisme, c'est un terme qui n'est pas défini, en fait, juste par la définition, mais par rapport, en fait, à l'histoire qui est autour. Et l'histoire qui est autour du racisme, c'est tout ce qui a commencé le 24 juillet 1532, quand Jacques Cartier est parti poser son drapeau quelque part au Canada, là-bas, et puis il a dit que c'est pour la France. Mais en fait, c'est toute cette histoire, en fait, qui englobe deux notions qui sont très liées, en fait, à la définition qu'on a de la race noire en Amérique, l'esclavage et la colonisation. Du coup, partant en fait de ces deux termes en fait qui sont très liés à l'histoire des noirs en fait, je ne pense pas que dans la définition usuelle en fait de noir quand on pense à cette histoire en fait les aborigènes et même les Indiens à la peau super foncée ont dans l'histoire vu que c'est des gens en fait qui n'ont pas connu ça en fait. Donc ils n'ont pas connu en fait les sources, mais dans les conséquences en fait ils peuvent être discriminés pareil quoi, parce que comme on l'a tous dit plus ou moins, finalement en fait peu importe d'où l'endroit d'où tu viens, finalement, quand il y aura une discrimination en fait, contre les Noirs, que tu sois éthiopien, que tu sois américain, que tu sois aborigène ou même indien, en fait, on nous mettra dans le même sac, non pas dépendant de notre origine, mais dépendant de notre couleur de peau. Donc, moi, je ne les considère pas en fait, comme Noirs, mais dans les conséquences, ils seront vus en fait, comme Noirs par ceux qui discriminent les Noirs. Quoi. Donc, voilà.
Alors, la notion de la langue, Mani, merci d'en avoir parlé, parce que la langue nous permet de nous définir nous-mêmes à travers nos propres paradigmes, notre propre œil. Jusqu'à présent dans le débat, j'ai comme l'impression qu'on situait notre négritude dans le regard de l'autre. C'est parce que le blanc a dit que nous sommes noirs, que nous avons accepté que nous sommes noirs. Et on essaie de prouver, de se battre, à démontrer notre négritude, à redonner en fait, à redorer le blason de la communauté noire qui quelque part n'a pas de en fait la communauté noire, c'est comme si ça n'a de réalité que dans le paradigme blanc, dans le paradigme noir, dans le paradigme africain, dans mon paradigme à moi, dans ma langue à moi, c'est quelque chose qui est inexistant quelque part. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a toutes ces difficultés-là. Et c'est certainement très important, en fait, d'essayer de véritablement bien comprendre et bien définir ces notions-là pour que ce ne soit pas... C'est pas comme si on va porter le fardeau, construit par quelqu'un d'autre. Tu vois, quelqu'un d'autre a construit quelque chose sans prendre en compte nos capacités à nous. On a construit quelque chose et nous, on est là, on se bat à vouloir soulever ça, porter ça sur notre dos. Voilà quoi, je sais pas, c'est un peu comme ça que je vois ça, parce que moi-même personnellement, je ne me définis pas vraiment comme noir, mais historiquement, sociologiquement et tout, je sais, je connais l'histoire, je sais que je suis dans ce monde-là, j'ai tout intérêt à me sentir beaucoup plus proche de Jay-Z que de Voltaire, voilà.
Donc je disais que on est déjà dans le paradigme. Notre calendrier à tous, c'est le calendrier grégorien. C'est un calendrier chrétien qui nous a été imposé. Mais nous qui sommes à l'étranger, c'est un paradigme très conscient pour nous parce qu'on le voit physiquement. Mais en Afrique francophone, c'est le même paradigme. Nos institutions sont des institutions coloniales. Notre droit est un plagiat juridique français. Il n'y a pas... Quand tu dis que on essaie de se définir à travers leur regard, mais leur regard est imposé en norme dans notre société. Donc soit on choisit de reprendre cette identité-là et de l'utiliser à notre avantage, ou on est dans le déni, bon, on va rester africain Et puis, quand on va aller aux États-Unis avec un Caribéen, on sera traité de la même façon parce qu'on est noir. Quand on sera en Chine, on sera tout autant traité. On sera traité pareillement qu'un aborigène parce qu'on est noir. Et qu'eux, ils sont ignorants sur certains points. Mais nous, on a refusé de prendre notre charge, tu vois. C'est une charge imposée, je suis d'accord. Mais on vit dans leur paradigme. On vit dans leur monde. On est dans un monde euro-santé, euro-centré, locodermiquement centré. C'est-à-dire que quand tu vas au supermarché, que tu dois avoir des produits, pourtant on te dit que ce sont des produits ethniques. C'est-à-dire que ce n'est pas la norme. Genre, c'est pour vous autres, là. Même à Abidjan, on n'a pas de produits. Genre, c'est maintenant que tu as cette vague de genre, il faut qu'on retourne aux sources, il faut qu'on consomme ivoirien, tout ça, tout ça. C'est maintenant que ça commence. Sinon, avant, quand j'allais au supermarché, c'était Garnier que j'utilisais. C'était les seules marques. J'ai été bercée.
Alors, ce que tu dis là, ça ramène à une autre notion, celle de comment comprendre, comment appréhender, comment vivre la race lorsqu'on est en Afrique. Parce que ce qui est vrai, c'est que la plupart des gens qui sont en Afrique ne sont pas très conscients de cette, comment dire ça, cette dualité, cet affrontement, cette guerre raciale, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Les gens ne sont pas très conscients de ça parce que ce n'est pas frappant. Contrairement à vous qui êtes en France, qui êtes confronté à ça de plein fouet, directement comme ça. Comme Yasmine l'a dit, tu arrives dans des papiers, on te fait comprendre que tu choisis, voilà, tu es... You are black, you are white, you are hispanique et tout machin. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Moi, j'ai 24 ans et c'est quand je suis arrivé au Sénégal, c'est-à-dire en 2018, que pour la première fois, je me suis retrouvé avec plus de 10 blancs dans une même pièce. Tu vois. Et même avant ça, je ne m'étais même pas retrouvé seul avec même un seul blanc dans une même pièce. Les blancs, je les voyais de loin, je les voyais à la télé. Il n'y avait aucun contact entre nous. Tu vois, j'ai baigné en plein milieu d'une communauté purement noire avec que des noirs, même si c'est vrai qu'à la télé on voyait ces blancs là, on a été bercé par cette culture là à cause de l'éducation qu'on a reçue, des cours qu'on a reçus, mais c'est très éloigné en fait de la notion raciale comme vous êtes en train de décrire un peu plus frappant. Donc c'est très éloigné de ça. Ce qui m'emmène en fait à poser cette question là, comment comprendre, comment appréhender, comment vivre de race, et surtout comment s'organiser. Bon, déjà, on peut dire que nos politiques ne font pas ce qu'il faut parce que je suis dans un pays majoritairement noir et ce sont les étrangers qui tiennent l'économie. Bon, là maintenant, c'est chaud.
C'est vrai que quand tu es en Afrique noire, c'est assez compliqué de voir cette dualité des races-là. Moi, je pense que on peut résoudre ça avec l'éducation, mais c'est-à-dire qu'il faut changer notre système éducatif, puisque je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le seul que je connais. Ça fait 60 ans qu'on est soi-disant indépendant, mais on n'a pas changé l'administration. L'administration est coloniale, c'est-à-dire que celle qui était là quand il y avait Angoulevent, Bengé, c'est la même qu'on a en 2020. Les livres, franchement, l'école est la même, c'est-à-dire que l'école qui avait été mise en place pour fabriquer un bon colonisé, un bon ouvrier, un bon exécutant pour la métropole, c'est la même école qui est là. C'est pas une école qui nous sert, parce qu'on forme des fonctionnaires. Et en plus de ça, on a eu le malheur d'hériter du système francophone qui fait une sélection par l'échec, où on essaie d'apprendre aux poissons à monter des arbres. Enfin, donc pour moi, la solution la plus efficace, ce serait de repenser notre système éducatif, de nous investir dans l'éducation de nos descendants, de nos frères, de nos sœurs, frères, amis qui nous suivent. Parce que, voilà, c'est eux qui pourront reprendre le flambeau. Il faut repenser comment appréhender l'histoire, comment déconstruire beaucoup de choses sans basculer dans une haine, mais un mépris profond de l'autre. parfois.
Mais ouais, ça c'est un point en fait qu'on oublie, mais la colonisation, ça a été pensé, quoi. Ça a été vraiment pensé. Au 19e siècle, c'est ça, fin du 19e siècle, en fait, il y a des gens qui se sont assis en fait pour penser en France. Il y avait des congrès de sciences coloniales, quoi. Genre, enfin, ils ont écrit des livres sur comment bien coloniser en se basant sur les sciences antérieures. Donc, ouais, tout ce qui s'est passé, en fait, c'est pas genre des gens qui se sont dit, ouais, comment est-ce qu'on fera le max de thunes? Ils se sont bien assis pour comment bien asservir les gens, comment faire en sorte que ce qu'ils vont faire, ça va rester, quoi. Donc, ça, c'est un truc, en fait, auquel on ne fait pas gaffe, mais ouais. Et puis, pour les Maghrébins, oui, ça, c'est assez le truc, parce que quand on est en France, ouais, on t'appelle, ouais, Rouya, frère, cousin, on est de la même merde, mais ouais, chez eux aussi, c'est assez violent, mais bon, c'est encore autre chose.
Franchement, celui qui s'est levé un matin qui a dit « Non, les gars, il faut qu'on pense à un autre moyen de les asservir. Genre, les chaînes, là, ils vont casser ça un jour. Il faut qu'on mette les chaînes mentalement. Si on le retrouve, moi, je veux le saluer parce que c'est un plan machiavéliquement bien ficelé. C'est-à-dire que tu enchaînes une seule personne, elle enchaîne le reste. Genre. C'est trop beau, c'est magnifique. »
Mani, tu es tombé sur le bon point là avec ta dernière note vocale parce que tu as enclenché ce qui va être le sujet de notre prochain débat. On va essayer de parler de la décolonisation. Ça sera très très intéressant, j'espère, parce que l'objectif de ce podcast, c'est de déconstruire. Voilà, donc là, il s'agissait d'abord de déconstruire la notion de race, de mieux la comprendre, de mieux l'appréhender. Et nous avons fait cet exercice avec brio. Je vous remercie d'avoir accepté de faire ce débat. Voilà. Moi-même, j'ai beaucoup appris de notre discussion, de nos échanges. Voilà. Et pour aller un peu dans une dimension un peu plus académique, j'aimerais avoir votre mot de fin par rapport à ce débat précédent. Qu'est-ce que vous voulez que les gens puissent retenir de ce débat? Et aussi proposer des livres, des lectures aux personnes qui pourront les aider à mieux comprendre, mieux savoir, mieux appréhender l'histoire et surtout se déconstruire par rapport à toutes ces notions qui nous ont été imposées par la traite négrière, la colonisation, l'impérialisme et autres. Voilà, merci.
Le merci est à toi, Gloire, d'avoir organisé ça déjà. C'était sympa, moi aussi j'ai beaucoup appris. Et comme livre, que je pourrais bien conseiller Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un très bon livre pour commencer à penser aux races et tout, si le travail n'avait pas été fait après. Après, il y a les livres de Jean-Philippe Omotunde aussi qui sont très bien. Et si on évolue en grade, on peut bien aller lire « Nation nègre et culture » des chers Anta Diop. Donc voilà, merci à tous. Bonne soirée.
Le mot de la fin. Le racisme existe. Ça a eu des justifications successivement religieuses, biologiques, scientifiques, économiques surtout, culturelles. Mais il faut surtout retenir que c'est une construction sociale, quoi. Donc, même si on veut bien admettre que oui, il n'y a pas de race, point de vue scientifique, socialement, ça existe. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est là. Donc, va falloir deal avec. Des livres que je vous conseille, je vous conseillerais bien ma thèse, mais elle ne sera pas finie avant quelques temps. À la place, je vous conseillerais de lire Une histoire du racisme de Christian de la Campagne ou une histoire de l'esclavage du même auteur. Voilà, pour avoir des informations scientifiques à ce sujet-là. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt.
Non, Ibrahim, on va attendre ta thèse. Tant qu'elle ne sort pas, nous aussi, on ne lit pas. On ne va rien lire tant que ta thèse ne va pas sortir. Donc, nous sommes là au rebond. Tu as intérêt à te bouger le cul. Voilà.
En fait, toi, il y a longtemps que tu ne voulais plus lire. En fait. C'est ça, j'ai remarqué. Mais la fois hier, c'est d'accélérer, pas d'engager.
Pour finir, j'aimerais d'abord remercier Gloire, Mani et Khalil pour cet échange très fructueux. Ça m'a permis d'apprendre davantage sur le concept de race, surtout en France, et comment c'est appliqué. Pour nos auditeurs et nos auditrices, j'espère que vous avez apprécié également, que vous avez appris énormément. J'ai trois livres à vous recommander. Le premier, c'est Americana, by Chimamanda Ngozi. Je réitère ce que Mani a dit, c'est un très bon livre, surtout si vous voulez apprendre comment le déclic se passe, comment on se définit noir quand on va dans un pays occidental. Le deuxième livre, c'est Race Matters, et ça par Cornel West, un auteur américain. Le livre en anglais, mais je pense qu'il y a une version française. Et ce livre parle plus du concept de race aux États-Unis. Le dernier livre, c'est Race and Class in the Ruins of Empire. Et c'est par Akala, qui est un auteur britannique, c'est aussi un artiste hip-hop. Et dans son livre, il est plus focalisé sur la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies, et comment le concept de race a été appliqué là-bas aussi. Donc, merci à tous et à la prochaine. Bye-bye.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pour le prochain numéro, nous parlerons du féminisme et de religion. Je vous dis à très bientôt. En attendant, ne venez plus!